Soyez gestionnaire d'une cuisine de restaurant indépendant ou de chaîne, d'une cuisine d'hôtel ou encore en institution, l'opérationnalisation de celle-ci est essentielle pour répondre aux besoins de vos clients et de vos employés. C'est à cette préoccupation que nous allons tenter de répondre aujourd'hui en analysant les facteurs à prendre en compte dans le cas d'un réaménagement ou encore d'une toute nouvelle conception de cuisine. Bonjour, mon nom est Robert Dion et je suis fondateur et éditeur de HRI Mag, média d'intelligence d'affaires dédié aux professionnels de l'hôtellerie, la restauration et les institutions. J'ai le plaisir d'animer ce balado qui portera sur comment mieux planifier sa cuisine pour mieux opérer. Qui de mieux pour aller dans les mieux que ceci que Guillaume Lussan, qui est le directeur du département de projet chez Doyon Després. Doyon Després, un leader en matière de distribution d'articles de cuisine au Québec. D'ailleurs, Doyon Després nous présente aujourd'hui ce balado. Bonjour Guillaume.
Bonjour Robert, merci de me recevoir durant ces quelques minutes-là.
C'est un plaisir. Écoute, faut savoir que Guillaume et moi, on se connaît depuis quand même pas mal d'années. Puis si j'ai des questions concernant des ouvertures ou des fois des petits coups, c'est sûr que je commence par lui parce que c'est quand même une personne très influente dans le domaine. Mais aussi, on a eu l'occasion de voyager puis faire plein de choses ensemble. Donc, c'est un privilège de pouvoir être avec toi dans ce balado-là. On a déjà préparé un petit peu nos questions, puis j'étais content parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux exploitants de penser un peu plus en amont de leur concept. Et la première question qui nous est venue, c'est, je vais la poser comme elle me vient, là, est-ce qu'on on planifie l'aménagement de la même façon lorsque c'est une cuisine neuve ou une rénovation? Puis je trouvais ça le fun de faire le parallèle entre les deux. Puis tout de suite, Guillaume, t'es parti en disant effectivement, il y a une grande, grande différence et en même temps, plein de similitudes.
Exactement. La première différence qui me vient à l'esprit, c'est les personnes qu'on va rencontrer. Je t'écoute souvent dans tes balados ou dans tes sorties, puis c'est vraiment devenu un métier d'entrepreneur. Donc, on va rencontrer plus d'entrepreneurs d'expérience dans les rénovations que dans les constructions. Et dans les constructions, c'est sûr, dans les nouvelles constructions, des fois, c'est un entrepreneur qui va reproduire un projet ou qui a déjà eu d'autres projets. Donc, c'est intéressant, c'est là où on va avoir une première nuance, une première expérience dans ce genre de détails.
T'sais, souvent, je fais la joke, je dis, seulement quelqu'un restaurant qui ferme, ça ne sera pas un salon funéraire qui va s'installer, ça va être souvent un autre restaurant. Est-ce que ça, on considère ça une rénovation, que quelqu'un vient prendre l'établissement qui existait déjà puis le mettre à sa main?
Ça dépend de son budget, ça dépend de ce que le client va faire. Souvent, ce qu'on a constaté dans le domaine avec les fermetures et les ouvertures, c'est que c'est souvent le design en avant qui va être rénové et pas forcément la cuisine. Nous, on va être impacté au niveau des arts de la table, puisqu'on a une spécialité chez Doyon Després. C'est qu'on va aller changer peut-être la vaisselle, quelques petits détails qui vont faire que ça va changer complètement l'image du restaurant. On peut aller toucher en arrière dans les cuisines. C'est sûr qu'on en parlera certainement un peu plus tard du terme que j'ai bien aimé que tu sortais, que tu utilisais, la cuisine non genrée. Puis donc, à un moment donné, une cuisine reste une cuisine. Il y a des équipements qui sont similaires de cuisine en cuisine, des redondances. Donc, ces équipements-là, on va peu les changer à moins qu'on ait besoin de les changer. Puis, c'est sûr que si c'est une cuisine japonaise ou un mexicain, il y a des équipements qui vont être un petit peu différents. Donc, on va les pousser là-dessus. Après la réouverture, là, s'il faut changer ce type d'équipement-là.
Je fais du chemin, Guillaume, sur ta cuisine non genrée parce que, selon moi, les équipements sont de plus en plus versatiles. Est-ce que vous allez, malgré qu'il y a des spécialisations, est-ce que les équipements, maintenant, tu les vois changer pour devenir de plus en plus, je vais dire, versatiles, non genrés, à plusieurs utilisés ou qui vont s'adapter à plusieurs cuisines?
On a vu... Il y a toujours eu des équipements. Une cuisinière a toujours été versatile. Peu importe le restaurant, il y aura toujours une cuisinière. Il y a plus des équipements qui s'étaient spécialisés à une époque, qui maintenant redeviennent un peu plus versatiles, puisqu'on va essayer dans le même pied carré de faire plusieurs tâches. On va essayer d'avoir une réduction des coûts, de l'efficience, un investissement. Ça reste des équipements souvent qui coûtent très cher, donc on va essayer de les utiliser plus de 30 minutes par jour. Donc oui, on voit une certaine... modularité dans le même équipement qui va pouvoir servir à d'autres fins que la fin initiale.
Tu as parlé de plus de 30 minutes par jour. Est-ce que c'est une valeur qu'il faut se poser comme question quand on regarde nos équipements qu'on a dans notre cuisine? Est-ce que c'est un scoop que tu nous donnes sur l'utilisation des équipements?
C'est une expression que j'essaie de donner à certains clients. On s'entend, on travaille avec des artistes. Donc, il y en a des plus ou moins artistes. Puis, on en a des clients très, très, très flyés. Puis ils veulent un équipement en particulier, puis il prend beaucoup de place. Donc là, des fois, on essaie de se revenir un petit peu en arrière, de faire d'élargir notre champ. Pourquoi on a besoin de cet équipement-là? Il y a un certain prix. Est-ce que tu vas l'utiliser souvent? Donc oui, on essaie de voir pour que le pécari coûte cher, de plus en plus cher en Amérique du Nord, là. On s'entend qu'en Europe, ça fait longtemps qu'on sait que le pécari coûte cher, puis on a des micro-cuisines. Ici, on avait la chance d'avoir des très grandes cuisines pour des belles salles à manger. On voit nos grands Saint-Hubert, nos grands Vertigo. Puis on arrive maintenant avec des plus petits locaux de 700, 800, 1000 pieds carrés où la cuisine doit être de prendre de moins en moins de place. Puis la salle à manger prend beaucoup de place, mais aussi l'espace livraison, l'espace take-out prend de la place. Donc à un moment donné, la cuisine rétrécit, rétrécit, rétrécit. Donc l'équipement multifonctionnel, puis l'équipement qui doit être utilisé à sa pleine performance, doit être sélectionné.
Puis on avait mis des questions, mais on chevauche un petit peu, puis c'est ça l'objectif, là. Mais tu parles d'utiliser plusieurs services, évidemment, comme tu as dit. Moi, je parle souvent maintenant de six axes en restauration, qu'on peut plus juste être basé sur une salle à manger. Ça me fait penser aux questions que tu dois poser à un restaurateur. Puis j'oserais pas dire un restaurateur, mais quelqu'un qui va préparer de l'alimentation, parce que on peut plus les appeler non plus des restaurateurs, c'est des professionnels de l'alimentation, parce qu'ils feront pas juste de la salle à manger ou de la restauration. Est-ce qu'il y a des choses que une constante que tu peux leur demander? Est-ce que ça fait partie de ce que tu leur demandes, dans quel secteur ils vont œuvrer? Pas le type de nourriture, mais vers quels axes ils veulent aller?
Tout à fait, leur circuit de distribution, c'est une des questions quand on commence à penser une cuisine. Ça fait partie des questions préliminaires, en plus de sa localisation, si c'est en région, si c'est en ville, puisqu'on sait qu'en ville, il va avoir beaucoup plus de moyens de vente. C'est sûr qu'en région, on va quand même avoir les comptoirs à l'emporter, mais en région, ils vont dire, on va faire une section épicerie en plus parce que j'ai de l'espace, puis je veux que les gens viennent chercher les produits chez moi. Donc, c'est quand même des questions qu'on va poser en complément des autres anciennes questions, superficie, niveau, est-ce que tu as du gaz, de l'électricité? Donc ça, c'est toujours les mêmes questions, mais on commence à penser à plus de choses, puisque c'est ça, c'est devenu des entrepreneurs en restauration et non des restaurateurs, même si c'était un beau métier à temps plein. Mais ils font plus de choses pour survivre. Pour survivre, ils vont faire beaucoup plus de choses.
Tu avais mentionné que vraiment l'espace d'entreposage et de démonstration devenait super important par rapport au reste. Est-ce que c'est toujours aussi d'actualité d'avoir de la réfrigération supérieure, puis des comptoirs de démonstration, puis on tombe où dans ce domaine-là?
Je dirais que ça dépend vraiment des concepts. On a eu la mode des cuisines ouvertes. On l'a vu quand on avait fait le joint de Robuchon à l'époque. Puis on a d'autres cuisines qu'on a ouvert, le Annette, qu'on a ouvert à la petite sœur ou la grande-tante du Hogan et Beaufort. Cuisine ouverte, donc c'est toujours d'actualité ce genre de concept-là. C'est quand même plus pour des chefs, les clients qui veulent voir les chefs travailler. Donc, ce n'est pas notre majorité des projets. On a encore des projets où c'est que la salle à manger est très fermée versus la cuisine. Est-ce qu'on va mettre du marché mis en avant? Ça se fait encore, moins que pendant la pandémie, bien sûr, où c'est que la partie épicerie était gigantesque. Mais les clients commencent à le faire. Mais je dirais commencent, mais ils l'ont. Dans le passé, si on revient dans nos vieux cafés ou dans nos restaurants confort, je ne sais plus comment le dire en français.
Traditionnel où on allait, c'est ça exactement.
Non, il y avait déjà des frigos, des réfrigérateurs à dessert à l'époque. Donc c'est peut-être un retour en arrière qu'ils avaient disparu et maintenant ils reviennent. On se le fait demander. Dernièrement, j'ai quelques projets qui me parlent de frigos à dessert, de celliers qu'on veut montrer. Puis pour vendre ce qu'on voit, là, on vendre mieux ce qu'on voit. Puisque c'est sûr que nos menus ont rétréci, on le voit souvent, mais se sont simplifiés. Donc il faut.
Le menu engineering a fait qu'on s'est concentré, mais c'est un peu la même chose. Le kitchen engineering fait aussi partie de ce qu'on fait, d'utiliser, comme tu disais, la norme des 30 minutes d'équipement, des choses comme ça. J'ai une question qui me brûle, Guillaume. Dans tous les secteurs d'activité, on voit que maintenant, on est des consommateurs avisés, c'est-à-dire qu'on va avoir été fait faire nos recherches sur les équipements qu'on peut mettre. On arrive déjà bien informé vis-à-vis notre consultant ou notre vendeur de bicyclette, là, peu importe. Est-ce que tu vois ce phénomène-là aussi auprès de tes clients avec qui tu vas préparer un projet? Est-ce que tu les vois arriver mieux outillés, plus compétents sur qu'est-ce qu'ils veulent faire puis qu'est-ce qu'ils veulent utiliser comme équipement?
plus challengeant, oui. Souvent, ils ont fait leur première recherche. Je pense pas qu'ils soient rendus au niveau résidentiel, comme je disais à des étudiants hier en conférence aussi. Les machines à café, on va sur le web, on tape Philips, Seiko, peu importe. Puis là, il y a des outils de comparaison qui apparaissent. On n'a pas encore ces outils qui sont nés pour le niveau commercial. Sauf que les clients vont commencer à regarder beaucoup plus nos sites web, les sites web des compétiteurs, puis vont arriver déjà avec quelques prospectus, quelques documents. Donc, ce que j'explique aussi à des clients, c'est qu'une fiche technique d'un produit importé, une fiche technique d'un produit local peut être exactement identique. Mais quand vous allez venir toucher le produit dans notre boutique, vous allez voir, vous allez sentir la différence. Donc ça, c'est un point très important. Bon, beaucoup de nos entrepreneurs ont déjà eu d'autres expériences, donc ils commencent à connaître la qualité entre deux marques, entre deux modèles. Mais pour les jeunes, les entrepreneurs, c'est très, très important de faire le tour des boutiques, là. Puis de pas toujours se faire attraper non plus par le prix, parce qu'il y a toujours le prix d'achat, mais il y a aussi le prix d'entretien, le prix d'opération. Si vous achetez un frigo à 2 500 $ versus celui à côté à 4 500, s'il a le même format, le même look, il y a quelque chose quand même là. Il y a une différence de qualité en arrière. Donc, il faut s'attendre à un moment donné que celui qui est plus économique va avoir tendance, c'est pas une obligation, mais avoir tendance à tomber plus en panne. Vous allez avoir plus de temps à investir par la suite pour faire votre service après-vente. Donc, ça, c'est très important.
C'est pas juste au niveau c'est pas juste au niveau du moteur, des choses comme ça va être la poignée, ça va être la fenêtre, ça va être la tablette, peu importe là, ça va être c'est ça. Donc, ce que tu dis, c'est que maintenant, on parlait de retour sur investissement parce que oui, effectivement, on a une coupe du X puis du Y qui devient très, très importante parce qu'on en a parlé. Les restaurants, souvent, sont front of the house, même un peu back of the house, conçus pour moins de temps. Est-ce que tu secondes ça? Qu'avant ça, on créait des restaurants pour 25 ans. Maintenant, on les fait pour une plus courte période de temps. Est-ce que ça fait partie de votre philosophie puis de la façon que vous parlez aux restaurateurs ou aux établissements?
Mais c'est une des questions au début. Est-ce que vous pensez être ouvert pour 3 ans, 1 an ou 15 ans? Il n'y a pas beaucoup de
Puis c'est pas
restaurants.
péjoratif un an, là. C'est
Comment?
pas péjoratif un an. Il y en a qui
Non,
font
mais
des
en fait,
pop-up
non,
puis
c'est un
que.
établissement pour peuple. Je veux dire, il y a rien de. C'est très, très. C'est aussi un. Ça peut être un très beau produit. C'est juste que quelqu'un qui décide qu'il va ouvrir. Il ne sait pas si son concept va fonctionner. Ou il décide d'ouvrir un concept pop-up. Ça peut être ça. Prendre un ancien restaurant, le rénover, le repeindre, puis repartir entre deux, ou pour se refaire un crédit, se refaire une image, ou tout simplement se faire du bien aussi. Quelqu'un qui avait un gros restaurant qui veut réduire et qui veut retourner aux sources. C'est pas le même budget d'investissement, c'est pas la même vision à long terme. Puis certains nous parlent encore de l'usager. Beaucoup ont compris que du robuste usager vaut plus cher que du neuf économique. Ça y est, ça a repris enfin ça pose son positionnement. Il n'y a pas beaucoup d'usagers économiques. Il y a une bonne raison. Enfin, je ne conseille celui-là à personne, à vrai dire, puisque c'est ça sur de l'économique. La durée de vie de 1 à 3 ans est quand même bien définie. C'est bien programmé, je trouve. Et on en a souvent des plaintes de clients qui nous disent après 1 an et demi. Le produit n'est plus garanti, tombe en panne, vous ne voulez pas nous offrir le service après-vente. Ben malheureusement, on prévient nos clients pour ça. Donc, c'est juste quand ils ont décidé d'investir, ils avaient un budget fermé. Donc, c'est le budget d'investissement initial. La plupart du temps, on essaie de le respecter. On essaie puisqu'on sait que si nous, on ne le respecte pas, on est un des maillons de la chaîne, ça va être difficile pour tout le monde. Il y a souvent des extras en construction, énormément d'extras. J'explique tout le temps que nos budgets qu'on faisait en équipement, on va les maintenir, on va essayer de les maintenir en changeant la qualité des produits, tout en mettant des alarmes, en disant, fais attention, cet équipement-là, prévois-toi un budget d'ici 3 ans pour le remplacer. Oui ou non, veux-tu continuer vers du plus économique ou on reste dans la gamme, moyenne gamme ou haut de gamme? Mais un drain, à un moment donné, dans un bâtiment, il pourra pas, le client pourra pas dire, non, j'enlève mon drain. Donc, il va le falloir le drain pour l'équipement en tant que tel. Donc, on peut couper sur le design, on peut couper sur l'équipement, mais pas sur la construction, souvent, souvent, souvent.
Sur la construction. Guillaume, si on parle de construction, évidemment, on a vu des prix augmenter de façon exponentielle pendant la COVID. On a vu du manquement d'équipements, des équipements back-order ou non disponibles. Est-ce que tu constates que la situation est revenue? Est-ce que les prix se sont restabilisés? Est-ce que tu vois que vous avez plus de stock? au niveau du produit, je pourrais dire un peu plus haut de gamme, là.
Tout à fait. Je pense que notre département des achats, puis la plupart de nos manufacturiers ont fait un très gros travail là-dessus. Donc, on est revenu dans des délais raisonnables. On a beaucoup plus d'équipements en stock, beaucoup moins de ruptures de produits en stock. C'est sûr qu'on a réajusté nos produits, nos lignes en fonction de nos fournisseurs, puis du potentiel de rupture de la chaîne chez nos fournisseurs. On commence à mieux à les connaître. Même les grands leaders de ce monde, pendant la pandémie, ont eu des belles ruptures. Donc, on s'est réaligné. Je pense que côté équipement de cuisine, ça s'est bien réaligné. Côté construction, on voit. Puis, je voulais dire aussi, côté cuisine, cette année, au lieu de recevoir, on a reçu encore quelques augmentations, comme à chaque début d'année, mais on commence à recevoir des baisses de prix aussi. Personnellement, je suis encore jeune dans l'industrie, même si je commence à faire partir des seniors, mais. Je pense que je peux dire que c'est rare qu'on reçoive des baisses de prix de la part de nos fournisseurs. Donc, c'est certain. En construction, je regarde nos chantiers en ce moment, on en couvre quelques centaines. Donc, c'est sûr que les prix sont encore très hauts, très élevés. Payer 1 000 $ pour un drain, ça surprend plus personne.
OK. Mais parlant de prix, je vais me servir de la friteuse parce qu'on pour moi, je trouve que c'est un exemple probant de rapport investissement versus rendement. Puis je pense que la friteuse est un des meilleurs exemples parce que je parle souvent avec, j'appelle ça le bâtonnet en or parce que la patate et l'huile qui sert à la cuire ont pris ont fulguré dans les prix. Mais parle-moi un peu d'une friteuse versus sa performance, puis le fait qu'il y a un retour sur investissement qui pourrait se faire versus la performance puis l'utilisation. C'est juste pour démontrer que vous avez une façon de faire penser aux futurs exploitants, aux exploitants qui font des rénovations, que vous êtes capable de les aider, pas juste leur vendre un produit.
Tout à fait. Donc, on a des outils de calcul, puis je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif, mais on a des outils de calcul qui, pour le même pied carré, on a des friteuses beaucoup plus performantes. Donc, on peut partir de la friteuse économique à 1 500, 1 700 $ pour aller sur des friteuses avec autofiltration, récupération de température de
De
cuisson
chaleur.
beaucoup plus rapide. Oui, récupération de chaleur, mais le terme en laverie est différent, mais pour la friture, on va l'utiliser. Récupération le temps de la température de cuisson, beaucoup plus performant. Et c'est là aussi, sur l'absorption de l'huile par la pomme de terre, on va aussi réduire la consommation d'huile grâce à ces friteuses qui sont à la bonne température au bon moment. Donc, pour le même pied carré, oui, l'équipement va coûter beaucoup plus cher à l'investissement, mais sur la qualité du produit, quoique les frites molles, certes, c'est encore à la mode de temps en temps, mais si on cherche des frites un peu plus croustillantes, puis des frites moins grasses, puis on va aller sur des
Oui,
friteuses qui
pour
vont
moi, les
aller plus
produits.
vers du 15 000, 20 000 $. Donc, il y a quand même une énorme différence de prix à l'investissement, mais en consommation d'huile, souvent dans nos calculs, on va descendre sur de l'autofinancement en 3-4 ans selon les clients, en fait, selon les chaînes ou les clients, les casse-croûtes la plupart du
Le
temps,
volume
les
qu'ils
gros
ont.
consommateurs d'huile.
Est-ce qu'il y a d'autres équipements que tu verrais avec, tu sais, est-ce que la réfrigération a ce même rendement-là versus la qualité, puis est-ce que c'est plutôt propre, tu sais, après ça, il y a les fours intelligents qui eux permettent de sauver du temps homme, là. Ça, c'est un autre phénomène, mais ça aussi, ça a eu un impact majeur dans la cuisine, là.
Les fours combinés, là, la plupart du temps, on va les appeler comme ça va être plus sur le temps opération, là, le temps, oui, un petit peu sur l'efficacité. Là, on entend toujours le chiffre du 30% plus efficace, mais est-ce qu'on le voit à vue d'œil? Il faut vraiment être un opérateur d'expérience pour le voir, là, contrairement à l'huile de friture où on va remplir l'huile beaucoup plus souvent, là. Donc, sur les fours combinés, ça va être plus sur le temps d'utilisation de l'équipement, les cuissons de nuit, la rethermalisation. Ça va être plus sur les opérations que on va pouvoir travailler là-dessus. L'utilisation des refroidisseurs rapides qui se développent de plus en plus, on a dû faire rentrer pour répondre à la demande des lignes plus abordables, plus économiques, je dirais, mais pas forcément en qualité, mais en taille,
Okay,
des plus
ouais, je
petits
comprends.
modèles pour répondre à une certaine demande. Donc, on a quand même le marché aussi des conserves s'est beaucoup développé, donc les gens vont essayer de le locavore, là, le restaurateur locavore va essayer de faire ses conserves et tout. Donc, ce marché-là s'est pas mal développé aussi, je dirais.
Serais-tu prêt à dire qu'on a pris des équipements industriels, puis qu'on a réussi à les mettre à la taille commerciale pour permettre de faire de la production en plus grande quantité sans que ça soit de l'industriel. Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit?
Oui, ben en fait, il est arrivé en Europe il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est juste que les équipements, la demande n'était pas arrivée jusqu'ici. Donc là, la demande commence à arriver puisqu'on a de plus petits restaurants qui veulent faire plus de produits, plus de produits
Transformation.
de transformation. Voilà, c'est ça, directement dans le même établissement, là. Donc oui, c'est une tendance qu'on a vue. Puis les produits étaient là déjà à l'international. Donc c'est juste une question de temps que les normes se mettent en place, là.
Fait qu'aujourd'hui, tu es capable de nous aviser que les budgets n'ont pas augmenté, mais les demandes ont augmenté.
La complexité des projets, oui. Ben,
OK.
c'est ça. On a des entrepreneurs aussi de plus en plus expérimentés pour une section, même si on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui arrivent, qui sortent de l'école et qui veulent leur propre restaurant, là. On en a aussi, là. On a quand même des entrepreneurs qui ont déjà roulé leur boss, puis qui se disent, oh, ben, le marché de l'épicerie, ça peut être cool, donc je vais me lancer là-dedans, je veux transformer un établissement en cuisine C1. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les équipements que je dois avoir? Avant, c'était plus ce genre de discours-là, était plus réservé à l'industriel. Maintenant, on va avoir le producteur, le maraîcher, le paysan qui vont ouvrir un espace C1 directement à la ferme pour aller vendre leur sauce tomate au
Et
IGA
gérer
du
une
coin. Oui.
deuxième, troisième transformation où la profitabilité aussi pour eux puis pour d'autres.
Pour eux, exactement. Oui. Ça, c'est vraiment amené beaucoup
Exactement.
pendant la pandémie, je trouvais. On a eu un gros boom des maraîchers qui veulent des cuisines C1. Puis, c'est sûr que le MAPAC les surveille, c'est certain, là. Un certain volume, ils vont le faire dans leur cuisine
Comprends.
résidentielle, ce qui est très surprenant, mais ça se fait très bien.
Mais
Quelques
on veut éviter les rappels, on veut plutôt aller les retours, on veut retourner, pas se faire rappeler les produits, là, c'est exactement ça. Mais écoute, tu sais, Guillaume, on l'avait dit d'emblée, on aurait pu passer des heures à discuter de ça, puis j'ai encore plein de questions, mais tu sais, je considère que j'aime ce que j'entends parce que tu sais, je me fais le porte-parole d'une industrie que je cherche à amener vers un professionnalisme plus investi au niveau des costings, de la gestion de personnel. Mais je sens que au discours que tu m'amènes, qu'on voit une catégorie d'entrepreneurs qui sont de plus en plus prêts à investir, prendre le temps d'y penser, puis d'aller dans un projet pour être sûr de son efficacité. Puis ça me fait du bien à entendre. Puis écoute, j'espère que les futurs entrepreneurs auront le temps de prendre une seconde, d'écouter notre discours d'aujourd'hui, notre présentation d'aujourd'hui pour aller un peu plus loin. Puis vous appelez-vous ou d'appeler un spécialiste. L'important, c'est que l'industrie soit plus performance. Mais évidemment, chez vous, au niveau des projets, chez Doyon Després, vous avez une équipe de quand même plusieurs créateurs. On va appeler ça des créateurs, des dessinateurs, des concepteurs.
Les
Chez
concepteurs,
vous, c'est des
le
concepteurs.
terme de concepteur. J'entends aussi resto concepteur aussi, mais concepteur,
OK.
comme ça, oui. Puis j'explique aussi aux clients, souvent c'est important de dire, vous avez votre budget d'investissement au départ, peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre un produit très haut de gamme tout de suite, mais dans le plus grand des bonheurs, votre établissement va résister à 2, 3 ans. On sait toujours, il y a toujours la règle du 3 ans, 5 ans là, pour la restauration.
Oui, tout à fait.
Et si au bout de 5 ans, votre équipement, il a tenu, ben là, à ce moment-là, vous investirez un peu plus. Peut-être avant. Des fois, on se fait appeler dans les 1 an, puis on dit, ben finalement, la banque de friteuse, je vais l'acheter. Puis, ou le four, je vais la remplacer. C'est important de prévoir l'énergie dès le départ aussi, l'énergie, le gaz ou l'électricité. On travaille beaucoup en équipement futur. Ça, c'est important aussi de le mentionner. C'est important
OK.
de penser dès le
Ça,
départ.
c'est l'infrastructure.
L'infra.
L'infrastructure d'accueil. OK.
Oui. Ça, c'est important d'y penser dès le départ, là, d'avoir la bonne ventilation, les bons espaces de travail, l'ergonomie, on en parlait aussi, là, les hauteurs de travail, les dimensions de circulation, les dimensions des chambres froides, c'est important. Il y a des choses qui sont difficiles à changer par la suite. Il y a des choses très faciles à changer. Un frigo, une friteuse, un four, ça change si l'électricité et le gaz sont là. Donc, il faut avoir une vision plus.
Ah, tu sais, la ventilation aussi. Quoique maintenant, il y a des équipements sans ventilation qui sont
Ouais.
assez performants.
Pas vraiment, ils ont leurs faiblesses, ils sont présents. Moi, je les conseille pas tout le temps, pas souvent, à vrai dire, parce qu'ils sont très chers à l'achat. Puis c'est pas tout le temps une source d'économie, puisqu'ils sont beaucoup plus chers, bien sûr, puisqu'ils sont quand même, ils ont une certaine certification. Et il faut regarder vraiment un budget de hotte de ventilation si ça vaut la peine de transférer ce budget-là. C'est pas une économie à 100%. Il y a une partie du budget qui est.
Compris, compris. Merci Guillaume. Je vous rappelle que je suis avec Guillaume Lussan, le directeur des projets chez Doyon Després.
et on vous a présenté ce balado « Mieux planifier sa cuisine pour mieux opérer ». Doyon Després, le leader en matière de distribution d'articles et d'équipements de cuisine au Québec. S'informer pour mieux performer, le balado HRI Mag qui vise à aider les exploitants des HRI dans leurs différents défis. Retrouvez ce balado sur hrimag.com section balado et partagez-nous vos commentaires. Merci et à bientôt.